With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Poulard Affût. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro et toujours accompagné de l'excellent Arnaud Beurdelet. Salut Arnaud.
Salut Raph, bonjour à toutes et bonjour à tous. Évidemment, Poulard Affût, vous le savez, c'est le podcast qui raffute le rugby. Au menu aujourd'hui, d'abord, comme chaque semaine, Raph nous servira son humeur du jour. Ce sera la ruade de Poulain. Dans la deuxième partie, nous aurons la chance de recevoir le troisième ligne du Stade Toulousain, ou plutôt, devrais-je dire, le troisième ligne des Babas, Alexandre Roumat. Et pour cause, le fils d'Olivier, qu'on ne présente plus, sera à Lille samedi pour affronter les Fidji avec les Barbarians français. Enfin, dans la troisième et dernière partie, place au débrief. Façon Poulain Raffut, voilà pour le programme. Je vous rappelle que ce podcast est à retrouver sur toutes les bonnes plateformes d'écoute, de Deezer à Spotify, en passant par Acast ou Apple Podcast. Surtout, abonnez-vous pour ne rien rater de la saison. Alors, vous êtes prêts? Poulain Raffut, saison 6, épisode 12, c'est parti. Allez, première partie, la ruade de Poulain. Raph, aujourd'hui, on va beaucoup parler de ce que représentent les Barbarians dans le rugby français. Tu as eu la chance un jour de porter ce maillot mythique et tu avais envie de faire partager un petit peu ton expérience, il me semble.
Oui, Arnaud, imaginez 30 mecs venus de partout à travers le monde se regroupant dans un hôtel pour une semaine hors du temps, hors de la norme qu'impose le rugby pro et sa rigueur. Souvent, ils ne se connaissent pas, mis à part de réputation. Et pourtant, en 7 jours, parfois 5, ils doivent vivre et s'entraîner ensemble, trouver des automatismes et préparer un match face à une nation majeure du rugby mondial. Au programme, apéro, chansons, fou rire, entraînement mi-sérieux, mi-folklore, qui finissent toujours par un toucher avec les entraîneurs et d'anciennes gloires de l'encadrement des Barbarians. Si on peut appeler ça un cadre. Eh bien, croyez-moi ou non, il y a quelque chose de magique qui se passe pendant ces quelques jours. Un mix entre la gaudriole, le professionnalisme, l'état d'esprit adolescent incarné encore par ce maillot et ses valeurs. Parce que quand on est Barbarians, on joue sérieusement sans au grand jamais se prendre au sérieux. C'est peut-être pour ça que ça marche si bien. Cette équipe, c'est un peu les Réchelles que j'ai connues, moi, quand on était champion en 99. Ce match de Barbarians que j'ai vécu à Mayol en 2001, c'est cette finale gagnée face à Pau 34-17 avec des mecs devenus des frères. Juste avant que l'enjeu de devenir professionnel ne dépasse le jeu. Simple, vrai et authentique. Les joueurs Barbarians ont obligation d'incarner les valeurs du rugby et prônent un jeu ouvert, offensif, audacieux et plein de panache. La philosophie de cette équipe est de prendre du plaisir en jouant un rugby champagne. Bon, pour moi, j'étais plutôt rugby Cronenbourg, venant de Picardie, fallait pas compter sur moi, pour savoir jouer un 2 contre 1. Et peu importe, on s'en fout, tu apportes ce que tu es quand t'es babasse. Si t'es babasse, c'est que tu le mérites. Tu es adoubé par les créateurs, ses anciens, les Jean-Pierre Rive, Denis Charvet et bien sûr, Lolo Pardo. Et avec eux, toutes les légendes disparues, mais bien présentes à tes côtés pendant la remise des maillots. Ces hommes qui, depuis le début, portent en eux cet état d'esprit si particulier, cette façon d'être au monde si spécial avec cette classe de gentlemen des Cambridge et Oxford qui, 100 ans plus tôt, ont créé ce club unique. La tenue est unique, d'ailleurs, elle aussi. Chaque joueur vient avec les chaussettes de son club. Pour les couleurs du maillot, les fondateurs français en 79 se sont inspirés de l'histoire des Babas. Ils ont choisi le bleu ciel de Cambridge, le bleu foncé d'Oxford et bien sûr le bleu de la France. Les Barbarians, c'est un groupe de mecs qui, l'espace d'une semaine, s'unissent et rassemblent en un espace-temps très court tout ce que le rugby doit incarner en termes de valeurs, d'engagement, de respect, de joie, de fraternité, voire d'unicité. La question que je vous pose pour conclure, chers amis, c'est est-ce qu'à travers ces mots, on n'est pas un peu tous des Barbarians dans nos petits clubs amateurs, les traditions, le respect des anciens, l'importance de l'histoire, la volonté d'appartenance à un maillot, à un groupe, voilà ce qui fait la sève de notre sport et qui en fait un monde à part. S'il y a un mot à retenir de ce que j'ai vécu ce soir de novembre 2001 à Mayol, sous les couleurs bleues si spéciales, c'est l'importance de la transmission. À travers le regard et les accolades des anciens avant et après match, ce passage de témoin essentiel de génération en génération, l'espace d'une semaine, l'espace d'un match, je suis retombé en enfance dans mon corps de grand. C'est un privilège, un honneur, un rêve éveillé d'être Barbarians.
Allez, deuxième partie de Poulain Raffut aujourd'hui. Nous avons la chance de recevoir le troisième ligne du Stade Toulousain, ou que dis-je, le troisième ligne des Babas, parce qu'il sera beaucoup question des Babas aujourd'hui, qui affrontent samedi à Lille les Fidji. Avec nous, donc, Alexandre Roumat. Mais on ne va pas forcément parler de top 14, on l'a dit, ni de club, ni du club du président Didier Lacroix. On va parler de l'esprit des Babas. C'est bien ça, Raph ?
Ouais, l'esprit des Babas français, issus de l'histoire anglaise, un maillot que tu as eu la chance, justement, Alexandre, de porter face aux États-Unis l'été dernier, que tu as découvert. Donc, raconte-nous un peu, toi, justement, on sait que ton père, et on va en parler aussi un petit peu de ton papa, tu connais de la valeur de ce maillot. Comment tu as vécu cette première expérience l'année dernière aux États-Unis ?
Ben forcément, comme tu l'as dit, une très bonne première expérience. Pour la première raison, c'est qu'il y avait pas mal de mecs dans le groupe que je connaissais. On était pas mal de Bordelais. Il y avait pas mal de mecs que je connaissais d'avant. Et puis après, voilà, le fait de partir à l'étranger, dans un nouvel endroit, un nouveau contexte, avec des putains de bons mecs. C'est vrai que, comme tu l'as dit, de par l'histoire familiale que j'ai toujours eu une notion des Babas qui était assez imprégnée, vu que mon père y a joué et a fait partie après des dirigeants. Donc, ouais, une super expérience et très content de refaire une nouvelle semaine avec les Babas cette semaine.
Alors, messieurs, juste avant que vous poursuiviez vos échanges, je vous propose, Raph, que tu nous dresses le portrait d'Alexandre. Roumat Junior façon Poulain Rafut, c'est maintenant.
Mais Alexandre, comme je te le disais justement en introduction, il faut que je te dise que pour moi, en te recevant, la boucle est bouclée. Tu vas comprendre. On est en 1991 au stade de la Méditerranée à Béziers. Alors, 10 ans plus tard, je perds une couille à Béziers. Mais là, 10 ans plus tôt, quand j'ai 11 ans, c'est ton père, au beau milieu de sa carrière, qui vient nous remettre une coupe. J'avais l'impression qu'il faisait 3 mètres de haut. Et de mes 11 ans, voilà, on était 1000 gamins sur ce stade à Béziers en mode touriste chinois agglutiné au pied de la tour Eiffel, Olivier Roumat. Enfin bref, c'était fou. 10 ans plus tard, c'est ton père qui me remet mon maillot floqué du numéro 11 en Barbarians dans les vestiaires à Mayol. C'était un énorme souvenir, là encore, car j'ai grandi en tant que rugbyman de poussin à junior, porté par les exploits des hommes de la génération de ton papa. Et puis, j'ai fait ma carrière. Et puis, un jour, j'ai fait une tournée des Pôles Espoirs en 2013 pour parler de ces souvenirs qui forment un homme. Et je suis venu à Bayonne. C'était Pierre Pérez, ton entraîneur, qui avait été aussi le mien une décennie plus tôt. Dans le public des jeunes espoirs, il y avait une tête qui dépassait. Et c'est marqué dessus, au-delà de la taille, ton visage sans te connaître, mais t'es familier. Et j'étais content ce jour-là de te transmettre en mots, à travers mon partage d'expérience, ce que ton père avait pu me transmettre en images, en souvenirs sur le terrain. Et ce maillot floqué du 11, en fait, qui m'a remis dans cette salle de réunion avant de rentrer sur Mayol. Et que tu sois là aujourd'hui face à moi, 9 ans après notre rencontre, prêt à disputer ce match face aux Fidji, comme moi il y a 20 ans, et surtout comme ton père qui l'a porté plusieurs fois, ça me fait simplement plaisir, comme une boucle bouclée, parce que tu représentes pour moi cette génération des joueurs talentueux que j'ai vu grandir depuis notre rencontre, et que la génération de ton père m'a fait grandir. Donc, c'est un peu spécial pour moi de t'avoir aujourd'hui. Et c'est cool de te revoir. La première question que je vais te poser, c'est l'esprit Babas, on vient d'en parler. On imagine que ton père, Olivier, t'en a beaucoup parlé. Je pense que la transmission est essentielle dans la famille. On ne va pas parler que de ton père, rassure-toi, on va parler de toi. Mais,
non, il n'y a aucun problème.
Ouais, savoir un peu ce que ton père, en fait, comment il t'en a parlé en fait, de ce maillot et de cet état d'esprit particulier.
Après, je crois que le format était peut-être un peu différent de ce que j'ai compris. Quand il jouait, il y avait quand même... Enfin, c'est pas que l'équipe des Babas aujourd'hui ne ressemble pas à une équipe internationale, mais j'ai l'impression que même les joueurs de l'équipe nationale jouaient aussi avec les Barbarians et jouaient des fois des équipes plus comme l'Afrique du Sud, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, chose qui se fait peut-être un peu moins. Donc il m'a dit que c'était toujours été des grands matchs et des super souvenirs, parce que je crois que si on enlève le côté rugby et tout ce qui s'ensuit, c'est vraiment moi, ce que j'aime dans les Babas, c'est les rencontres. C'est rencontrer des mecs que tu croises tous les week-ends et que tu n'as pas forcément le temps d'apprendre à connaître, des mecs que tu n'as pas revus depuis. Mais comme tu le dis, on ne s'est pas croisés depuis peut-être 10 ans. Moi, je revois des mecs que j'ai avec qui je joue à Bordeaux, des mecs contre qui je joue tous les week-ends. Et c'est vrai que ce côté... une semaine, on enlève nos couleurs, entre guillemets, de nos clubs et on en met une seule, même si on le garde sur une de nos chaussettes. Je trouve ça bien et je trouve que c'est quelque chose qu'il faut qu'on perdure. Et c'est vrai que papa m'en avait parlé et m'avait toujours dit que c'était des moments exceptionnels et qu'il fallait en profiter au maximum.
Alexandre, il y a quand même une spécificité chez les Babas, c'est cet esprit un peu potache. Un peu old school entre guillemets. Est-ce que la nouvelle génération arrive à faire perdurer cet état d'esprit dont on sait que ton papa était un fervent adepte?
Ben ouais, honnêtement, je crois que ben, comme Raph l'a dit auparavant, je pense que tout vient de la transmission et à chaque fois, dans tous les groupes des bases, il y a, on va dire, entre guillemets, des anciens qui transmettent cette légende des bases et qui du coup nous rappellent à chaque fois que voilà, on passe beaucoup de temps à s'entraîner, on passe beaucoup de temps dans des clubs avec des choses assez peut-être répétitives, très schématisées. Et c'est vrai que ce côté liberté que notamment Lou Pardo essaye de prôner toute la semaine, et bien on essaye de le retrouver pendant une semaine en se prenant entre guillemets pas la tête, en faisant un toucher, en passant des moments conviviaux en dehors du terrain, et voilà, en essayant de se baser uniquement sur la valeur humaine et sur le groupe. Donc voilà.
En parlant de valeur humaine, justement, je pense que tu peux prendre ton GSM entre les mains et regarder. Je t'ai envoyé une vidéo d'un mec que tu connais bien qui joue encore à Bordeaux. Alors, mesdames et messieurs, vous allez entendre, hein, bien sûr, la vidéo en même temps qu'Alex va la regarder. Alors, peut-être le temps qu'elle se
Mettre le
charge.
son
Non, non, non.
en même
Alors, pour toi,
temps.
oui.
T'as pas besoin. Juste
Toi,
pour
pour
toi,
toi,
le son.
oui. Pour toi, le son, ouais, vas-y, vas-y.
Moi, je peux mettre
Voilà.
sur mon téléphone pour écouter ce
Voilà.
qu'il
Toi,
dit.
tu peux écoute-le. Écoute-le. Déjà, tu as vu
Ok.
sa tronche, je vois que tu souris. Donc,
Salut Maroum, j'espère que ça va. Que tu te régales avec ces deux belles encoches d'Arnaud Beurdeul et de Rafistol. Voilà. Petit message pour que tu nous fasses partager ce grand moment qu'on a vécu ensemble lors du fameux G7, il y a de ça quelques années maintenant. Je sais que tu avais apprécié ce moment, et si jamais tu te souviens pas de tout.
Baba! Et Baba, il s'est fait un caleçon avec un typhon, quoi.
Je t'embrasse, Marouignas. Bisous.
Ah,
Ouais,
c'est
mais honnêtement.
Jubi-Jubi, hein, on l'a reconnu au niveau de la voix, mais les gens qui ne le voient pas.
Ouais, mais honnêtement, au début, j'avais pas du tout la ref quand il m'a parlé du G7, mais après, quand il a fait sa fameuse imitation. Ouais, non, c'était tout simplement un moment, en fait, quand on a été confinés les dernières semaines pour essayer un peu d'aider les gens qui étaient en difficulté, notamment les personnes qui donnaient à manger dans des hôpitaux. On s'est un peu rejoint à Bordeaux avec cette bande-là. Il y avait Danse Duquin, JB Dubié, Lucas Méret. Et en fait, on allait donner à manger les matins ou faire à manger à des personnes qui en avaient le besoin. Et en fait, le dernier jour, on s'est fait une petite journée façon babase. Et du coup, c'est parti voilà, en apéritif. Et en fait, c'est une imitation de Lucas Méret qui était complètement éméché, qui en fait disait n'importe quoi voilà, et portait sa casquette d'une manière très. Enfin, qui nous a fait rire sur le moment. Et en fait, lui, il pensait que ce qu'il disait, parce qu'il était arraché, était drôle. Et en fait, nous, on rigolait parce qu'on se foutait de sa gueule. Du coup, il y avait un quiproquo où il y avait 10 personnes autour de la table qui explosaient de rire. Et lui, plus on rigolait, plus il en rajoutait. Et moins c'était drôle, mais plus nous, ça nous faisait rire parce qu'en fait, c'était juste sa carafe qui nous faisait rire, quoi. Donc voilà, c'était pour ce moment-là
Voilà.
qui m'a cité.
Voilà l'état d'esprit des babas. On va rendre juste un petit peu plus sérieux, 5 minutes. Juste savoir, est-ce que c'est difficile d'être le fils d'eux dans le rugby français? On a dû te poser 10 000 fois la question depuis tes débuts en pro. Moi, j'ai la chance de faire quelques petites RP avec ton père qui garde cette bonne connerie au fond des yeux qu'il devait avoir il y a 15, 20 ou 30 ans et que tu as aussi, justement, et c'est ça qui est réel. Mais est-ce que c'est difficile, justement, d'être le fils d'eux et d'avoir, est-ce que ça met une certaine pression?
Ouais, comme tu l'as dit dans ta question, je vais peut-être me répéter, mais non, honnêtement, je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Il m'a toujours, enfin, il m'a toujours, ils m'ont, mes parents m'ont toujours dit qu'il fallait que je fasse ce qui me plaisait. Or, ce qui m'a plu très tôt, c'était de jouer avec un ballon. Je trouvais que c'était un ballon ovale, donc ça tombait bien.
Alors d'ailleurs, oui, mais si ça avait été un autre sport, ça aurait été, t'aurais renié ou non
Non, 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 aucun
je...
problème. Bien sûr, forcément, aujourd'hui, je pense qu'ils sont très fiers que je sois dans les traces de familiales, mais non, voilà, ils m'ont toujours dit de faire ce qui me plaisait, et au contraire, je pense que c'est plus un atout qu'autre chose d'avoir quelqu'un qui a connu l'amateurisme, qui a connu le professionnalisme, qui a été entraîneur, qui sait, voilà, me conseiller, il s'est échangé avec moi sur plein de choses qui sont sur le rugby, même sur la vie. Et honnêtement, j'ai une relation qui est assez fusionnelle avec lui parce que je suis fils unique et c'est vrai que j'ai une relation assez proche, un peu de meilleur pote et aussi petit frère, grand frère avec lui, qui fait qu'on s'appelle souvent et on parle énormément de rugby. Et donc, honnêtement, de manière générale, même si des fois, comme dans toute relation familiale, il peut y avoir des avis qui diffèrent, mais non, de manière générale, c'est quelque chose qui m'aide beaucoup au quotidien et qui, je pense, m'a aidé ouais, dans le début de ma jeune carrière.
D'ailleurs, Alexandre, est-ce que les propos de ton père après ton départ de Bordeaux t'ont gêné à ce moment-là? Est-ce que ça fait partie des petits amis croches dont tu parles?
Quel propos?
Sur ton départ de Bordeaux par rapport à Christophe Furios?
Disons que c'est quelque chose que...
T'aurais préféré que ça reste dans le cercle familial?
C'est ce qu'il veut et en soi, ça n'a aucun, ça n'a eu aucun impact, du moins je pense, sur moi, mes performances ou même ma manière de voir les choses. Après, c'est plus la forme qui m'a un peu dérangé, c'est plus le fait que j'aurais aimé que ça soit, comment dire, que ça reste dans le silence tout simplement. Après,
c'est la passion.
Une phrase qui était, j'en sais rien si elle était sortie de son contexte ou pas, s'il avait quelque chose à dire ou pas, mais voilà. J'aurais peut-être préféré que ça reste dans le silence, mais après ça a été fait. Mais voilà, j'ai rien de spécial à rajouter sur ça. Et
c'est pas la fin du monde.
Et je garde un très très bon souvenir de Bordeaux, contrairement à ce que ça aurait pu dégager de la part des paroles qui ont été citées.
Ouais. Passé par Biarritz, donc l'UBB, aujourd'hui au Stade Toulousain, la question qui vient légitimement, hein, c'est quoi la prochaine étape, même si tu nous vois venir arriver avec des plutôt très très gros sabots là, tu vois. La prochaine étape.
Ouais, c'est pas forcément à moi de la dire, mais voilà, bien sûr que je pense avoir évolué et plutôt bien évolué sur mes des dernières années. J'ai eu la chance de rejoindre le Stade Toulousain, qui a toujours été un club qui, pour moi, m'a toujours fait rêver. Il a toujours été un club qui, je pense, me correspond à la manière de voir les choses, la manière de jouer. Donc, je suis très 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 heureux de jouer dans ce club, et forcément que quand tu as la chance de jouer dans ce club, ben, si tu arrives à faire des bonnes performances, voilà, tu penses aussi à ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire l'équipe de France. Après, j'ai été, comme je dis souvent, j'ai été appelé il y a 2 ans pour m'entraîner, donc forcément, et en plus de ça, j'ai fait toutes les sélections jeunes, donc quand tu y goûtes, tu as forcément envie d'y revenir. Après, voilà, une sélection, c'est... tu peux pas, comme je le disais la dernière fois, j'aurais 50 sélections et je ne serais pas sélectionné. Je prendrais ça comme une déception parce que j'ai un certain statut. Or là, je n'ai jamais été sélectionné. Donc, je vois plus le truc comme une détermination, une motivation qui est décuplée et qui, à chaque fois, me fait dire voilà, tu n'y es pas cette fois-ci ou tu n'es pas appelé ou voilà, pour X ou Y raison. Mais ça te donne, voilà, ça te donne envie de. Voilà, de tous les jours te lever pour essayer de faire encore mieux et un jour avoir la chance de pouvoir peut-être postuler pour être appelé.
Alexandre, justement, c'est vrai que tes qualités techniques sont souvent louées, tes qualités aériennes, tes qualités d'endurance sont souvent vraiment mises en avant. En revanche, il y a un point que certains regrettent, c'est peut-être un manque de densité physique. Est-ce que c'est quelque chose que sur lequel tu bosses ou finalement c'est quelque chose qui t'est complètement égal?
Alors, ça m'est pas complètement égal parce que forcément, on essaye de maintenir ses points forts et de travailler ses points faibles, comme je pense toujours dans au rugby. Mais disons que oui, je suis conscient que mon profil n'est pas celui d'un 8 ou d'un troisième ligne qui entre guillemets porteur ou casseur de plaquage. Mais je travaille dans ce sens-là, forcément. Et d'ailleurs, cette intersaison me fait beaucoup du bien parce que j'ai pris une certaine masse dans l'intersaison. Donc, je me sens mieux et je me sens mieux dans tout ce que je fais sur le terrain. Après, mon profil et ma manière de jouer restera toujours la même. Et j'ai toujours eu la même philosophie, pardon, avec Pierre Pérez qui m'a inculqué, comme tu en as parlé. Et qui, voilà, moi, le rugby, je le vois, il n'y a pas que d'évitement. Bien sûr qu'il faut aller taper et que c'est le rugby de haut niveau, il est obligatoire. On l'a encore vu ce week-end face à l'Afrique du Sud. Mais je pense qu'il y a des fois, il vaut mieux aller taper dans un espace que dans une porte. Donc après, c'est des manières différentes de voir le rugby. Moi, c'est la mienne. Et c'est peut-être pour ça aussi que ça se retranscrit sur mon jeu. Mais forcément que je le prends en compte et que j'essaye de progresser dans ce secteur-là, comme tu l'as dit.
Tu as parlé d'ailleurs... Arnaud, vas-y.
Non, j'allais dire justement, ça colle parfaitement avec le choix de rejoindre probablement
le
Stade
Stade
Toulousain.
Toulousain, ouais. Même s'il y avait cette période d'internationaux, c'est le choix, c'est par rapport à. Il y a beaucoup de clubs te voulaient justement en France. Qu'est-ce qui a penché dans la balance du Stade Toulousain au-delà du fait que ce soit là aujourd'hui l'un des meilleurs, voire le meilleur club en France, voire presque en Europe?
Alors, il y a plein de choses, je pense, qui ont été importantes. Mais la première, en fait, qui a été, c'est que je me suis. Bon, comme je l'ai dit, j'ai toujours aimé ce club. Et ça faisait quelques années que j'avais la chance et le privilège de. Comment dire, d'être contacté par le club. Et à chaque fois, j'avais dit non parce qu'au début, je voulais rester à Biarritz pour continuer à jouer en Pro D2 et pas partir trop tôt. Ensuite, ça commençait à très bien marcher à Bordeaux et c'était la fameuse saison où on avait fini premier, tout allait bien pour moi. J'avais justement eu la chance d'être appelé à l'équipe de France, donc j'avais décidé de replonger 2 ans. C'était pas pour moi le bon moment de partir. Et là, en fait, ça faisait un peu le moment où le train, il passe une dernière fois et si tu y vas pas, il passera peut-être plus jamais. C'est vrai que j'avais toujours eu en tête de vouloir rejoindre le Stade Toulousain et pour moi, c'était le moment opportun. Donc ça, c'est la première raison. Ensuite, forcément, c'est que même si Bordeaux est un club qui a l'ambition de gagner des titres, le Stade Toulousain est un club qui est très titré et qui chaque année postule aux places de vainqueur. Donc forcément, même si je me considère encore jeune et très jeune, j'ai aussi envie de suis chaque année pour gagner des titres parce que voilà, j'ai eu la chance d'en gagner quelques-uns en jeune et c'est quelque chose d'exceptionnel. Et après, pour la troisième raison, on va dire majeure, c'est voilà, c'est pour moi la philosophie, la culture qui est développée dans le club qui pour moi me correspond et du moins j'essaye de m'y rattacher. Et c'est vrai que ce jeu d'adaptation, de lecture, de vitesse, de déplacement, de passe, c'est quelque chose qui me plaît que j'essaye de développer avec le stade.
On va parler des Babas, justement. Vous avez joué contre les Fidji ce week-end. Moi, je voulais savoir si vous faisiez votre préparation physique avec Denis Charvet ou avec Lolo Pardo. À choisir entre les deux, là, pour la muscu, c'est Lolo quand même. Alors, Lolo Pardo, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, légende du rugby français, qui est un petit peu voilà, que je parlais des Gaudrioles et du Bouffon, le Bouffon de la bande, dans le bon sens du terme. Hein, c'est le mec au fond du bus, quoi.
Mais,
Lolo
bien sûr.
Pardo, c'est l'ambianceur des Babas. Voilà, comment ça se passe au niveau de la préparation physique? Pour la parenthèse, moi je me souviens que c'était à grands coups de pinard et de restaurant. On était 20 ans plus tôt, hein, Fidji 2001. On avait perdu, mais on avait fait une préparation très particulière. Est-ce que c'est un peu la même
Écoute,
pour vous?
on n'a fait qu'un sort pour le moment, mais pour le moment, ouais, c'est sensiblement la même chose, même si on est conscient que samedi à 15h, on aura quand même une des meilleures équipes au monde, enfin, parmi dans les 10 meilleures équipes au monde. Donc, on va quand même essayer de se préparer un minimum. Mais oui, on va dire que le côté convivial extra-sportif reste présent et je pense qu'il va perdurer au moins quelques jours, peut-être pas trop tard dans la semaine, mais au moins 2, 3 jours.
Comment on se prépare justement? Alors moi, je ne vais pas raconter ma life parce que c'était il y a 20 ans et que c'est toi l'invité. L'idée, c'est de savoir comment on se prépare psychologiquement et qu'est-ce qui se passe en fait qui fait que, et tu l'as vécu aux États-Unis l'année dernière, qu'est-ce qui fait qu'en fait, à tout moment, tu peux gagner contre des nations majeures, pardon, avec juste 5 ou 7 ou voire 10 jours maximum de préparation face à des équipes qui s'entraînent tous les jours ensemble depuis des mois, voire des années.
Bon, je pense que enfin, c'est peut-être un peu bateau ce que je dis, mais c'est tout simplement les liens que tu arrives à créer en une semaine avec les mecs. Et puis aussi la fierté de porter un maillot qui est quand même, on va dire, un maillot. Enfin, ça reste une sélection, même si ce n'est pas le maillot de l'équipe de France, ça reste un maillot important avec de grands noms qui sont passés avant. Donc, tu as forcément ce côté historique qui te rattrape et qui te fait te transcender. Et puis après, je pense aussi, c'est quelque chose qui est peut-être pas souvent évoqué, mais que le fait que tu te sois mis, entre guillemets, quelques breaks dans la semaine t'oblige en fait à te surpasser ou du moins à te dire bon j'ai fait le compte cette semaine je suis obligé de m'envoyer sur le match quoi. Et c'est souvent là où entre guillemets quand tu as peur de l'adversaire ou tu as peur de mal faire enfin, pas de mal faire mais de passer à côté que tu te sors les doigts et que tu te dépasses et du coup ça donne souvent des résultats incroyables comme on a pu le voir sur des matchs il y a quelques années où les Babas ont battu l'Australie, où ont battu voilà, des grandes nations, même s'il y avait des joueurs qui étaient absents. Donc voilà, je pense que c'est comme ça qu'on arrive à trouver voilà, dans une semaine les ressources pour battre les équipes en face.
Et surtout, Alexandre, que enfin, les Fidji, c'est pas rien quand même. C'est peut-être bien de se préparer à minima parce que ça peut vite piquer avec des garçons comme les joueurs fidjiens qui sont capables de te découper en quelques morceaux sur un seul plaquage.
Ah oui, bien sûr. Non, mais voilà, bien sûr. Après la journée, je te rassure, on s'entraîne comme toute équipe. Et en plus de ça, pour la plupart, on vient d'une semaine de vacances avec la coupure. Donc, on est quand même lucide et conscient qu'il va falloir voilà, se préparer aussi un petit peu en extra, faire un peu de muscu, un peu de cardio pour se remettre aussi en jambes. Et voilà, mais je n'ai pas de doute sur notre performance et je suis persuadé qu'on arrivera à faire un grand match samedi.
On connaît les joueurs, hein, le potentiel de chaque joueur qui est sur le terrain avec toi ce week-end. Par contre, on connaît moins justement le potentiel des à côté. Est-ce que tu peux nous citer deux, trois noms, tu vois, de mecs qui peuvent ressortir un petit peu du lot? Toi, t'es quoi? Tu te situerais où par rapport au bus? Tu vois, t'es plus au début de bus, introverti, au milieu ou plus au fond? Ou
il y a non, deux je questions suis plutôt, en une, hein. Pas le dernier rang, mais plutôt juste l'avant-dernier rang. Au fond, j'aime bien ces petites histoires de fond de bus. Ouais. Mais après, j'aime bien aussi me placer un peu partout en fonction des déplacements, en fonction des mecs, essayer de bouger un peu, de rencontrer de nouveaux mecs. Là, ce midi, je bouffais un peu avec les jeunes, là. Louis Bielbarré, Léo Barré, qui c'est qu'il y avait d'autres, Kylian Tixeron. Ils ont toujours même s'ils sont entre guillemets plus jeunes, ils ont toujours des petites histoires aussi à te raconter. C'est bien aussi de se mélanger, quoi.
Tu fais presque partie des cadres aujourd'hui dans une équipe des Babas qui est très jeune, non?
Ben, cadre, je ne sais pas si je peux dire ça, mais c'est vrai que dans ma tête, je me considère encore toujours très jeune. Mais c'est vrai que quand tu arrives à 25 piges, on va dire que tu es au milieu des générations. Et c'est vrai que quand tu vois des mecs qui arrivent de 2002, 2003, qui ont tout juste, comme Louis Bielbarré, avec qui j'ai joué à Bordeaux, qui avait tout juste 17 ans et demi quand il est arrivé, c'est vrai que... C'est pas que ça rajeunit pas, je vais pas faire l'ancien, mais voilà.
Mais t'es plus
le plus jeune de la bande.
Mais t'étais le plus jeune d'ailleurs. Quand je fais l'épaule espoir là en 2013, tu te souviens maintenant? En fait, je me souviens, c'était.
Je me rappelle quoi, tu nous avais fait une intervention, je me rappelle, pour être honnête, qu'elle m'avait marqué, mais je me rappelais plus que c'était au pôle. Il me semblait que c'était avec les moins de 20 ou les moins de 19, mais en fait, c'était.
Mais bien non, mais parce que t'étais surclassé justement en 2013, parce que j'ai moi face à moi quand je fais la conférence à Marc Houssy, j'ai face à moi Teddy Thomas et toute cette génération-là, donc c'est Tolo Fua et tout ça, c'est toi t'as 2 ans de moins.
Non, mais je pense qu'il y avait plusieurs, soit c'était à deux moments différents, soit c'était deux équipes ou trois équipes qui étaient venues en même temps. Mais moi, Teddy Thomas, il est de 94, je crois, donc on avait trop d'écart. J'avais juste été une fois surclassé en moins de 20, mais c'était pour la Coupe du Monde et je ne pense pas que c'était à ce moment-là.
En quoi elle t'avait marqué, justement, puisque je rebondis là-dessus, Alexandre, en quoi elle t'avait marqué la conférence de Raf à ce moment-là?
Alors, je ne me rappelle plus exactement de tout ce qu'il avait dit, pour être honnête. Mais,
oui, sa carrière est longue de péripéties.
Ça m'avait marqué parce que c'est vrai que souvent, on a des témoignages, entre guillemets, positifs. Des choses, des gens qui ont réussi, des gens qui ont gagné des titres, des choses. Et c'est vrai que ça nous avait aussi, ça m'a aussi marqué parce que ça te fait aussi voilà, redescendre sur terre, entre guillemets, et relativiser. Et c'est vrai que d'avoir un témoignage touchant d'une personne qui est une personne comme nous, entre guillemets, où nous, on allait devenir une personne comme lui en tant que jeune joueur pro, ben c'est vrai que j'avais trouvé ça hyper, hyper intéressant et hyper, comment dire, courageux aussi de sa part de venir témoigner et devant, se mettre à nu devant, devant des jeunes, devant plein de personnes, devant la France entière, parce qu'il l'a fait aussi de manière, il me semble, par podcast ou par vidéo. Donc, c'est pour ça que je sais que ça m'avait marqué, mais voilà, je ne me rappelais plus exactement quand c'était, mais je savais que c'était soit au podcast.
C'est comme une mise en garde, en fait, quelque part.
Prévention, ouais.
Ouais, voilà. Ouais. Et c'est vrai que. Je pense que voilà, ça fait jamais de mal à nous jeunes qui aspirons à devenir professionnels d'être conscients de tout ce qui peut exister de manière positive, négative, les à côté, à l'intérieur. Ça peut voilà que t'enrichir et te permettre de te préparer à cette vie professionnelle.
On pose rarement la question en fait. Moi, je voulais juste savoir, Alexandre, ton papa était très connu. Tu as une forte notoriété aujourd'hui. Comment on vit la notoriété en tant qu'homme aujourd'hui à 25 ans? Avec ton parcours, comment toi tu la vis? Je pense qu'on la vit tous et tout différemment, hein. Comment toi tu la vis au sein du Stade Toulousain et en tant qu'homme?
C'est une question assez pas vague, mais que j'ai, enfin, honnêtement, je sais pas trop comment répondre. Moi, je pense, enfin, c'est pas quelque chose qui m'impacte ou qui me Ce que je peux dire, c'est que c'est vrai que depuis que je suis arrivé au Stade Toulousain, pour être honnête, même si dans les clubs précédents, il y avait forcément une autorité, de par aussi mon nom, de par ce que je fais sur le terrain. Mais c'est vrai qu'au Stade Toulousain, il y a quand même une autorité qui est, je pense, décuplée, parce que c'est, je pense, le club en France qui est le plus titré, mais aussi le plus renommé, qui a la plus grande réputation, parce que ça se voit à chaque fois qu'en fait on se déplace à l'extérieur. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait un peu, pas bizarre, mais quand on est arrivé cet été en stage à Loudainville, où d'habitude, quand tu fais un stage en été, il y a peut-être une cinquantaine de personnes grand max qui viennent voir l'entraînement. Et là, quand tu passes à entre 300 et 500 personnes qui viennent te voir l'entraînement, c'est vrai que ça fait quelque chose qui change. Après, moi, de manière personnelle, j'ai toujours été... J'aime partager des moments avec les supporters. Honnêtement, même si des fois ça peut paraître compliqué quand tu restes 2 heures à signer des autographes comme ça, mais moi c'est quelque chose que j'aime bien, notamment avec les enfants. J'aime beaucoup les enfants, mais après sinon je reste assez loin de ça. J'aime pas trop entre guillemets me médiatiser, me mettre en avant, faire de la pub ou choses comme ça. Enfin, j'aime bien rester tranquille dans ce que je fais et voilà, pas me prendre la tête.
C'est aussi pour ça que tu as choisi le Stade Toulousain et pas le Stade français, peut-être, hein, en termes d'image, à la différence de ton père ou pas du tout? Rien à voir.
Non, pas du tout. Non, ça, en aucun cas, c'est rentré dans mes choix. Mais non. De toute façon, les périodes étaient différentes et le choix était différent. À l'époque, quand j'étais allé au Stade français, voilà, je sais pas pourquoi exactement il y allait, mais c'est pas ça qui a influé sur mon choix de club.
Bon, messieurs, on va juste conclure. On rappelle, hein, évidemment, le match des Barbarians de samedi 15h à Lille. C'est peut-être le coup bas, finalement. C'est peut-être de jouer à Lille alors qu'il fait encore 20-21 degrés dans le sud. À Lille, il fait combien, là, Alexandre?
Je sais pas, mais il fait très froid.
Ça pique, hein.
C'est pas le pôle Nord, les gars. Je viens de Picardie. C'est pas le pôle Nord non plus.
Pour la petite anecdote, j'étais en vacances la semaine dernière à l'étranger. Il faisait 30 degrés et j'ai passé en 24 heures de 30 à
0.
Avec la gare, je pense qu'il ne va peut-être pas faire 0, mais 3-4 degrés, quoi. Et j'avais pris un simple blouson et la prochaine fois, ça m'apprendra. Je regarde la météo.
C'est le Nord.
Allez, on va te laisser tranquille, Alexandre. On te souhaite un bon match pour samedi. Donc, ce sera à 15h à Lille contre les Fidji. Raph, nous, on va enchaîner évidemment avec la troisième partie. Raph, puisqu'il a été beaucoup question, hein, de l'esprit si particulier, l'état d'esprit si particulier des Barbarians français, il y a un joueur que tu souhaitais mettre à l'honneur aujourd'hui. Il n'est pas Babaz. Il est irlandais, c'est le pilier international Tadhg Furlong. Dis-nous pourquoi.
Bah parce qu'il a été 61 fois sélectionné avec l'équipe d'Irlande et pour la première fois, le week-end dernier, il a été capitaine de l'équipe d'Irlande. Et quand on lui a posé cette question, est-ce qu'il en avait rêvé justement d'être capitaine de son pays? Est-ce qu'il en rêvait? Et lui, il répond non, il rêvait plutôt de patates, de sauce et du rôti du dimanche de ma maman. Et je trouvais que dans l'esprit babaz qu'on vient de se raconter justement avec Alexandre, avec Marua dans le préambule, l'idée, c'était de mettre en avant que voilà, on ne rêve pas tous d'être rugbyman professionnel. Moi, je rêvais d'être motard dans la police quand j'étais petit. Lui, rêvait de pommes de terre, rêvait de rôti, à mon avis, de s'amuser dans son village le week-end, tout comme moi et tout comme d'autres. Donc voilà, je voulais mettre en avant que voilà, on ne rêve pas tous d'être rugbyman, même si on le devient. Et que, je sais pas, à travers cette déclaration, j'ai trouvé que voilà, le gamin en lui avait parlé et on se rappelle tous de nos souvenirs d'enfance avant que l'enjeu, justement, ne dépasse l'enjeu de la gloire, de la notoriété, de la reconnaissance, du rugby professionnel et tout ce que ça comporte de public et de notoriété. Mais il y a cette notion de jeu et je trouvais que cette déclaration était plutôt drôle dans un monde justement rugbystique qui s'aseptisait un petit peu de temps en temps. Voilà, une petite déclaration un peu marrante pour nous faire garder les pieds sur terre.
Allez, enfin, difficile de ne pas parler du 15 de France, le 15 de France qui a battu samedi dernier donc au Stade Vélodrome l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, une performance héroïque de la part des hommes de Fabien Galthié, des joueurs qui en ont payé le prix fort et pour cause, la rencontre a été brutale, violente, pas moins de 5 protocoles commotion passés durant cette rencontre, 2 cartons rouges, 1 carton jaune, bref, un match à ne pas faire voir aux enfants, Raph, ton avis?
Oui, j'ai lu aussi le papier de Richard Dourte, hein, que j'apprécie beaucoup. Après, on est, on est, on est, on est parfois en décalage l'un et l'autre. Lui, son jeu était basé justement sur l'agressivité. Heureusement qu'il n'y avait pas 15 joueurs comme Richard Dourte sur le terrain, parce que sinon, ça aurait détonné, quoi. Et c'est vrai que là, j'ai eu vraiment l'impression qu'on était dans du... un peu dans du pain et des jeux, quoi. Alors nous, on l'avait lancé il y a 15 ans, 20 ans avec le Stade français, avec les Pompongers, avec le show. Mais là, cette agressivité que j'ai vécue, et j'ai même à la fin, je voulais regarder la fin du match avec mes fils sur mon petit téléphone portable, et il s'avère que je les ai même envoyés se coucher avant l'heure parce que j'ai trouvé ça j'ai trouvé ça violent, en fait, même si, voilà, le côté héroïque qui ressort de ces dieux du stade, on y a joué, hein. Toi comme moi, au rugby, on sait que ça peut être agressif, mais là, c'était parfois limite, à la fois côté français et côté sud-africain, hein. Parce qu'on le voit, le numéro 6, en fait, qui tombe sur Jonathan Danty, en fait, est poussé aussi par son centre. Enfin, ça, encore, c'est quand même un acte... presque, je dirais pas de délibéré, mais c'est pas là l'agressivité, c'est tout au long de la partie, c'est pendant 80 minutes, c'est l'intensité, tu l'as dit, au niveau des chiffres, des cartons rouges, des cartons jaunes, des commotions, où va-t-on? En fait, la question que je me pose, c'est où va-t-on dans cette surcharge d'agressivité? L'équipe de France a gagné, 12e victoire, on est sur un record, très bien, mais quid de savoir en fait ce que ça va donner à moyen et à long terme? La Coupe du Monde arrive dans un an, je suis pas certain que ce match de ce week-end a été une très très bonne publicité pour le rugby français, voilà.
Comme le disait le docteur Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du 15 de France, heureusement on ne joue pas contre l'Afrique du Sud tous les week-ends. Dimanche prochain, l'équipe de France jouera contre le Japon. Rendez-vous donc tous derrière les Bleus, évidemment, dimanche prochain pour supporter les hommes de Fabien Galthié. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Raph, merci, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, toujours avec la banane.
Merci Arnaud, merci à toutes et à tous, et à la semaine prochaine. Salut.